vous invite à garder le feuillet avec le texte sous les yeux qu'on va voir ensemble dans Matthieu 16 et le plan également de la prédication. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Prions. Oui, notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous, que tu t'es fait connaître à nous, que tu nous as parlé, qu'on peut entendre ta voix aujourd'hui au travers de la Bible. Et on te prie que ce soit le cas encore ce matin au travers de ce passage de l'évangile de Matthieu. Aide-nous à comprendre ce que ça signifie de perdre sa vie pour la gagner. Aide-nous à comprendre ce que ça signifie de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Aide-nous à comprendre ce que ça signifie de vivre pour ce qui vaut vraiment la peine dans ce monde. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Dans le passage qu'on regarde ensemble aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, Jésus, il n'est pas comme un vendeur qui cacherait une arnaque. Vous savez, un vendeur qui cacherait un truc dans les conditions générales de vente, en tout petit, dans la 47e page, qui vous engagerait pour toute votre vie à payer 30 euros par mois sans pouvoir vous rétracter, quelque chose comme ça. Non, Jésus ne cache rien, il dit les choses clairement, même les choses qui ne seraient pas agréables à entendre dans le passage qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Il est clair, il ne cache rien. Mais Jésus n'est pas non plus aujourd'hui comme quelqu'un qui dirait des choses qui sont trop belles pour être vraies. Des choses qu'on ne peut pas croire, ça a l'air trop beau. C'est une fausse promesse, forcément, il y a un truc qui doit être caché. On ne peut pas faire confiance à ça. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus dit quelque chose et on peut vraiment se confier dans ce qu'il dit, on peut vraiment le croire. Il dit les choses clairement, même ce qui coûte, même ce qui est compliqué, et on peut faire confiance à ce qu'il dit. Et c'est ce qu'on va voir quand il montre et il explique ce que ça signifie aujourd'hui dans notre passage de le suivre, ce que ça signifie pour chacun de nous de suivre Jésus. Il va montrer que le fait de suivre, le suivre, c'est pas comme on suit quelqu'un aujourd'hui sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On peut suivre quelqu'un et ça ne nous engage pas à grand-chose. C'est nous qui choisissons et on arrête quand on veut. Et le fait qu'on suive cette personne, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer notre vie. Non, Jésus, dans le passage aujourd'hui, nous montre que le suivre, ça coûte bien plus. Ça coûte bien plus. Mais aussi, il va nous montrer que le suivre, ça rapporte bien plus. Ça vaut la peine. Il n'y a aucun regret. Et donc, je vous invite à voir cela avec ces deux points ce matin. Suivre Jésus, c'est suivre un Messie qui a souffert. Et suivre Jésus, c'est tout perdre pour tout gagner. Donc, premièrement, d'abord, suivre Jésus, c'est suivre un Messie qui a souffert. Dans le passage précédent, la semaine dernière, on a vu que Pierre avait reconnu que Jésus était le Messie. On se dit, mais enfin, les disciples ont compris qui Jésus est. Pas juste un grand homme, mais le roi, le sauveur que Dieu avait promis depuis bien longtemps. Et à la fin de notre passage, la semaine passée, dans Matthieu 16, le verset 20, juste avant les versets qu'on a lus aujourd'hui, Jésus avait demandé à ses disciples de dire ça à personne. Gardez ça pour vous, le fait que je suis le Messie. Et on voit pourquoi il fait ça ici. Parce que les disciples n'ont pas encore tout compris ce que ça signifiait pour Jésus d'être le Messie. On va le voir, ils sont même complètement à côté de la plaque. Et donc dans ce passage, Jésus commence à enseigner sur la mission du Messie, sur ce que ça signifie pour Jésus d'être le Messie. On voit ça avec le verset 21. Verset 21, « Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Voilà la mission de Jésus en tant que Messie. Aller à Jérusalem, souffrir, mourir et ressusciter. Il est en chemin vers ça. En gros, Jésus explique à ses disciples que la mission du Messie passe par la souffrance et passe par la mort. Et ça, les disciples, ils ont du mal à le comprendre. Et on voit dans notre passage la réaction de Pierre, qui est probablement quelqu'un qui s'exprime pour l'ensemble des disciples. Il résume bien ce que les autres pensent aussi, au verset 22. Pierre le prit à part, il prend en part Jésus et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est assez fort ce qu'il est dit ici. Il est dit que Pierre prend à part Jésus et lui fait des reproches. Ce n'est pas juste qu'il prend à part Jésus et qu'il partage son avis avec hésitation, Franchement, je sais pas si c'est une super idée de faire ça. Est-ce que tu veux pas qu'on évalue d'autres options peut-être? Non, il fait des reproches. Il reprend Jésus. Jamais de la vie. C'est hors de question. On laissera jamais une chose pareille arriver. Tu peux pas subir ça, Jésus. On va pas laisser ça se passer. Le Messie ne peut pas subir ça. Parce que pour Pierre, comme pour beaucoup à l'époque, le Messie, c'était quelqu'un de victorieux d'un point de vue militaire. Quelqu'un qui allait apporter le triomphe, quelqu'un qui allait remporter des combats, quelqu'un qui allait régner aux yeux de tout le monde, ici et maintenant. Et donc c'était inimaginable de penser qu'un tel Messie pourrait souffrir, et encore moins de penser qu'un tel Messie pourrait mourir. Pierre ne peut pas accepter ça. Mais Jésus doit corriger la pensée de Pierre et corriger la pensée des disciples dans ce passage, en leur montrant, mais c'est ça la mission du Messie. Aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, mourir de façon cruelle et ressusciter. Le chemin du Messie passe par la souffrance. Et c'est parce que ça fait partie de sa mission, de ce pourquoi il est venu, que Jésus réagit assez fortement au verset 23. Il écrit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus est sur un chemin qui mène vers la souffrance et vers la mort sur une croix. C'est ça sa mission. Et Pierre, avec ce qu'il dit juste avant, se retrouve sur son chemin, sur le chemin de Jésus, pour le détourner, pour le faire trébucher, pour lui offrir une autre alternative. Il écrit que Pierre est pour Jésus un scandale. Littéralement ici, c'est l'idée d'une pierre, d'une pierre qui fait trébucher, une pierre qui fait tomber, qui est cause de chute. Et c'est pour ça que Jésus dit à Pierre, mais va-t'en, arrière de moi, Satan. Satan, c'est l'ennemi de Dieu qui, quelque temps plus tôt, dans l'évangile de Matthieu, on voit ça au chapitre 4, a tenté Jésus. Il a offert à Jésus tous les royaumes de la terre. Il a offert à Jésus la gloire, mais sans la souffrance. D'une manière qui allait détourner Jésus de la souffrance et de la croix qui l'attendait. Ce que Satan voulait offrir à Jésus, c'était la gloire sans la souffrance, le règne sans la croix. Et c'est pour ça qu'ici, Jésus s'adresse à Pierre en l'appelant Satan. Parce que Pierre, par ce qu'il dit, offre la même perspective que Satan lui-même. Non, Jésus, tu ne peux pas souffrir. Le Messie doit être victorieux, vainqueur. Pierre veut la victoire, mais sans le chemin de la croix qui amène à cette victoire. Et Jésus ne veut pas de ça. Rien ne peut le détourner de sa mission, de ce pourquoi il est venu sur cette terre. C'est vrai que c'est tout à fait humain de vouloir la gloire sans la souffrance. Personne aime souffrir. De vouloir la victoire sans les combats. C'est ce que nous dit le verset 23. Il nous est dit que les pensées de Pierre sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. C'est les pensées humaines. Mais ce n'est pas la manière dont Dieu avait prévu les choses pour le Messie, pour la mission du Messie. Quand Jésus explique sa mission, dans ce qu'on a lu dans le verset 21, dans ce qu'il dit à ses disciples, il est dit que Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Il lui fallait. C'était une nécessité. C'est pour ça qu'il est venu. C'était le plan de Dieu, prévu bien à l'avance. Et toute la vie de Jésus, elle avait comme pour but d'accomplir ce plan. Le plan de Dieu, c'était que le Messie soit mis à mort. Sur une croix, la pire des condamnations, la plus humiliante, dans la faiblesse la plus totale. Pas pour mourir en vain, parce que le plan de Dieu, c'était que le Messie meure à la place de son peuple. Pour les péchés de son peuple, pour toutes ces transgressions à la bonne loi de Dieu dont on est coupable, qui nous mettent face à un jugement éternel, qu'on ne peut pas effacer nous-mêmes. Le plan de Dieu, c'était que le Messie prenne ce jugement à notre place, et qu'il offre ainsi entièrement et réellement le pardon des péchés à tous ceux qui se confient en lui. Et le plan de Dieu, ce n'était pas que ça s'arrête avec des souffrances, une croix et un tombeau. Mais c'était que ça continue avec un tombeau vide et un corps ressuscité. C'était que le Messie revienne à la vie, qu'il soit vivant et vainqueur. Et c'était ça le plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Et quand on continue à lire l'évangile de Matthieu, on voit que c'est effectivement le plan que Jésus a accompli. C'est effectivement le chemin que Jésus a pris. On voit que Jésus règne aujourd'hui et que quiconque se soumet à sa bonne autorité et au bénéfice de sa bonté et de son pardon, il est ressuscité après être mort sur la croix. Il est vivant et il est vainqueur. Mais à ce moment de l'évangile de Matthieu, Jésus, il est en route pour accomplir ce plan. Il est sur le chemin de la souffrance et rien doit l'en détourner. Et ça nous aide à comprendre pourquoi c'est totalement inapproprié de limiter Jésus à simplement un bel exemple de morale, de dire que la vie de Jésus nous montre à quoi ressemble l'amour et la paix, et c'est tout. Non, parce que faire cela, c'est avoir les pensées des hommes, c'est avoir au final la même perspective que Satan lui-même. C'est vouloir la gloire sans les souffrances, le règne sans la croix, c'est mettre de côté la croix qui est au cœur de la mission de Jésus. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui parmi ceux qu'on rencontre. Je me souviens que quand je suis arrivé à Bruxelles il y a 6 ans maintenant, ça va faire 6 ans cet été, j'allais dans un parc à côté de là où j'habitais et j'ai rencontré un monsieur qui était très sympa, il avait la 60aine et on passait beaucoup de temps à discuter par rapport à la foi, par rapport à la personne de Jésus. Et il connaissait énormément de choses par rapport à Jésus. Il pouvait citer beaucoup des paroles de Jésus. Il appréciait la morale que Jésus enseignait. Il aimait beaucoup tout ce que Jésus avait apporté, tout le bien que Jésus avait fait dans ce monde. Mais il ne parlait jamais de la croix. Et chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet de la croix, il mettait ça de côté comme si ce n'était pas ça le plus important. Comme si on pouvait prendre une partie de Jésus et laisser de côté le reste. Comme si on pouvait bénéficier de ce que Jésus avait apporté en mettant de côté la croix. Mais non. Vouloir la sagesse de Jésus, vouloir les paroles de Jésus, vouloir la morale de Jésus, sans la croix de Jésus, c'est rejeter le plus important. C'est avoir la même perspective que Satan lui-même. C'est avoir les pensées des hommes. C'est détourner Jésus de sa mission. C'est être comme Pierre qui est une cause de chute sur le chemin de Jésus. Parce que dans un sens, le seul élément sur la bucket list de Jésus, sur sa liste de choses à faire dans sa vie, c'était ça, de mourir sur une croix pour des pécheurs, pour offrir le pardon des péchés. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli. Le chemin de la croix que Jésus a pris nous ouvre la porte du ciel. Quand on place notre confiance, quand on place notre foi en lui, on a le pardon des péchés. Pas sur la base de ce qu'on fait, pas sur la base de notre obéissance, mais sur la simple foi qu'on place dans son sacrifice. Mais Jésus ne s'arrête pas là dans notre passage. Et il veut maintenant montrer à ses disciples que cette foi qui sauve par pure grâce, ce n'est pas une foi vaine qui n'a aucune implication. En fait, il veut montrer que c'est une foi qui coûte et qui va demander tout ce qu'on a. Et donc, c'est notre deuxième point ce matin. Suivre Jésus, c'est tout perdre pour tout gagner. Suivre Jésus, c'est tout perdre pour tout gagner. Il s'agit de tout perdre d'abord parce que suivre Jésus, c'est aller là où lui il va, sur ce chemin de la souffrance et de la croix. On pourrait dire tel maître, tel disciple, puisqu'un disciple est quelqu'un qui suit son maître. Et donc c'est pour ça que Jésus dit au verset 24, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'idée de porter sa croix, c'est une expression qui est devenue assez populaire en français. C'est l'idée que chacun de nous, on a tous nos petites galères de la vie qu'on doit supporter. On doit vivre avec des choix de vie qui nous pèsent et voilà, il faut bien faire avec. Il faut porter sa croix. Mais quand Jésus invite ici ceux qui veulent le suivre à porter leur croix, ça signifie bien plus que quelques petites galères de la vie. Et pour comprendre ça, il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque quand ils entendaient parler de la croix. À l'époque, la croix, ce n'était pas quelque chose de cool, qu'on portait en pendentif, qu'on se faisait tatouer, qu'on mettait sur la façade d'un bâtiment. Non, la croix, c'était plutôt un sujet d'horreur, dont on n'osait même pas parler en société. C'était la mort la plus cruelle, la plus humiliante qu'on puisse imaginer. Connaître quelqu'un qui avait été crucifié, c'était la honte totale. On ne voulait pas de ça. Donc ici, Jésus associe à l'idée de le suivre la honte, le rejet, la moquerie et même la mort. Même la mort, parce que ceux qui portaient leur croix à l'époque, c'était pas pour faire une promenade de santé. Ceux qui portaient leur croix, c'est parce qu'ils étaient condamnés à mort et qu'ils se dirigeaient vers le chemin, vers l'endroit de la crucifixion. Et c'est ce que Jésus veut dire clairement ici. Si quelqu'un veut le suivre, si quelqu'un va placer cette foi qui sauve en lui, ça va impliquer qu'il meure à lui-même et qu'il accepte la honte qui est liée. Ça va impliquer qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est reconnaître que je ne suis plus le roi de ma vie. C'est plus moi qui règne. C'est accepter de quitter le trône de notre propre vie pour laisser Jésus y régner. C'est lui le roi de ma vie. Et je suis prêt à faire ça, même si ça me coûte. Et ce que Jésus dit ici, c'est que ça va coûter. Ça va coûter. Suivre Jésus, c'est le suivre sur ce chemin du renoncement, de la souffrance et de la mort. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui de tout perdre pour Christ? Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Quelques exemples qu'on peut mentionner. Ça peut vouloir dire de subir le rejet de sa propre famille. J'ai en tête l'exemple de plusieurs personnes qui ont été rejetées par leur famille d'une manière ou d'une autre depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Devenir chrétien ne leur a pas rendu la vie plus facile, ça leur a rendu la vie plus difficile sur certains aspects. Et même dans cette église, il ne s'agit pas toujours de persécution physique, même si c'est parfois le cas, mais il s'agit également de rejet, d'incompréhension, de regard de jugement, de paroles déplacées, de rencontres familiales qui pèsent lourd. Tout perdre, ça peut aussi vouloir dire d'accepter d'être une minorité dans nos convictions éthiques, dans le domaine de la sexualité, accepter de jamais être populaire pour notre point de vue, accepter d'être mal jugé, mal compris pour notre point de vue, accepter d'être toujours regardé comme étant un peu bizarre parce qu'on s'attache encore à ce que la Bible enseigne. Tout perdre, ça peut impliquer d'accepter de ne pas vivre le niveau de vie que je pourrais vivre parce que je veux participer financièrement à l'œuvre du Seigneur. Ça peut vouloir dire d'accepter de dire non à des choses bonnes et légitimes, comme un divertissement qu'on aime, pas parce que ce serait mauvais, pas parce qu'on veut dire que c'est une chose mauvaise, mais parce qu'on veut investir notre temps ailleurs, dans des choses qui ont une valeur éternelle. Tout perdre, ça peut vouloir dire, et en fait ça va vouloir dire pour chacun de nous, d'accepter d'entrer dans une lutte quotidienne contre le péché, pour rejeter ce qui déplaît à Dieu, et pour grandir en sainteté. Ça va vouloir dire d'accepter de rentrer dans ce combat en sachant qu'il n'y a aucune fin dans ce combat, jusqu'à ce qu'on soit dans la gloire. Aucun répit dans ce combat, jusqu'à ce qu'on soit dans l'éternité, mais qu'on veut le faire par amour pour Dieu. Ça peut vouloir dire de mettre de côté du temps qu'on avait prévu pour soi, pour prendre soin d'autres personnes dans l'Église, pour les encourager à grandir dans la foi. Cette foi va coûter, pour chacun de nous, pour chaque disciple, de manière différente. Et peut-être que depuis que vous êtes chrétien, vous trouvez la vie bien difficile. Mais soyez encouragés. C'est normal. C'est la preuve que vous êtes sur le bon chemin, en train de suivre votre maître. Et comme on va le voir un peu plus tard, dans un instant, c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est quelque chose qu'on ne regrette pas. Mais cette idée de renoncer à soi-même, de porter sa croix pour devenir disciple de Jésus, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas imposer de limites à la seigneurie de Jésus. On ne peut pas imposer de limites à Jésus lui-même. Parce que parfois, on peut être prêt à s'engager dans la foi chrétienne en mettant certaines limites. On s'intéresse à la personne de Jésus, il nous a l'air vraiment fascinant, on est intéressé par la Bible, on trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce que la Bible enseigne, mais on ne veut pas que tout ça rentre trop dans le domaine de notre vie privée. On n'est pas prêt à ce que Jésus soit le maître de notre vie dans tous les domaines de notre vie. En gros, c'est un peu comme si on disait à Jésus « Ok, Jésus, tu peux avoir cette partie de ma vie, ça c'est pour toi, mais ça je garde, ça c'est pour moi. Ça, tu n'as pas le droit de toucher. Ça, c'est encore moi qui est roi. Ça, c'est encore moi qui est sur le trône de ma vie. » Mais on ne peut pas imposer de limite à Jésus. C'est soit il est seigneur de tout, soit il ne l'est pas du tout. C'est tout ou rien. Soit il est seigneur de toute ma vie, soit il n'est pas en train de régner, soit je ne suis pas en train de le laisser régner, soit c'est moi qui est toujours sur le trône de ma vie. On ne peut pas prendre de Jésus ce qui nous arrange et laisser de côté le reste. Parce que l'appel que Jésus fait à le suivre, c'est un appel à le laisser régner sur toute notre vie. C'est un appel à le reconnaître comme roi, pas seulement en théorie, mais dans la réalité. C'est un peu comme si on imagine que vous achetez une maison, quelque part, et quand vous rentrez, quand on vous donne les clés de votre maison, vous rentrez dans votre nouvelle maison, vous êtes vraiment content, mais vous voyez que sur certaines pièces de cette maison, il y a marqué « Ne pas rentrer, c'est encore à moi ». Et c'est l'ancien propriétaire qui a marqué ça. Il a voulu garder certaines pièces pour lui. Ben, ça n'aurait aucun sens. Vous direz, mais non, j'ai acheté cette maison, cette maison, elle est à moi. Et non seulement la maison, mais toutes les pièces à l'intérieur de cette maison. C'est la même manière pour chacun de nous avec Jésus. Si on veut le suivre, c'est qu'on accepte qu'il prenne la place dans toute notre vie, dans toutes les pièces de notre vie. C'est qu'on accepte qu'il puisse frapper sur chaque porte et dire, mais ça aussi, c'est à moi. Ce domaine aussi de ta vie, c'est à moi. Même, par exemple, celui de nos relations sentimentales. Trop souvent, on peut voir des gens qui semblent aimer Jésus sincèrement, qui semblent vouloir suivre Jésus, mais qui ne sont pas prêts à écouter et à se soumettre à ce que Jésus et la Bible disent dans le domaine de la sexualité. Que la sexualité est une bonne chose, mais qu'elle a été créée pour le cadre du mariage, pour l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. Et que donc toute relation ou tout désir sexuel en dehors de ce cadre est un péché, quelque chose qu'on veut rejeter, qu'on ne veut pas accepter. Et donc oui, suivre Jésus, devenir chrétien, va impliquer de mettre en ordre ce domaine de notre vie. D'arrêter de vivre en concubinage, de rejeter la pornographie, de laisser de côté la convoitise sexuelle. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui accepte que Jésus ait son mot à dire, y compris dans ce domaine qui paraît si privé, si personnel. C'est quelqu'un qui désire se soumettre à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ça parfaitement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lutter pour savoir comment mettre ça en pratique, qu'il ne va pas chuter, devoir revenir, recevoir le pardon auprès de Jésus. Mais ça veut dire que l'attitude de son cœur est prête à obéir à Jésus, même si ça coûte. Il faut laisser Jésus régner sur toutes les pièces de notre vie. Parce qu'on réalise qu'il est digne d'y régner. C'est une joie, c'est un privilège de le laisser régner. Ne pas le mettre de limite à la seigneurie de Jésus, qu'est-ce que ça peut vouloir dire positivement? Voilà encore quelques exemples de personnes réelles que j'ai rencontrées cette année passée dans différents pays, différents endroits, que j'aimerais mentionner, qui sont des bons exemples de personnes qui ont accepté de laisser Jésus régner sur tous les domaines de leur vie. C'est cet homme qui a accepté de retourner dans son pays d'origine comme missionnaire après être devenu chrétien. Alors qu'il avait quitté son pays sans être chrétien, en voulant jamais de la vie y retourner. Il a accepté d'y retourner pour être missionnaire. C'est cette femme qui, malgré ses faibles revenus, veut aider ceux qui sont dans le besoin, veut participer à l'œuvre du Seigneur financièrement, même si ça implique de grands sacrifices. C'est ce couple qui choisit de déménager dans cet endroit où il y a des besoins pour l'Évangile, dans cet autre pays où il y a des besoins pour l'Évangile, même si c'est dur, même si ça implique de vivre dans une nouvelle culture, dans une nouvelle langue. C'est cette femme qui a renoncé à un emploi qu'elle aurait beaucoup apprécié, qui était bien payée, mais qui allait l'empêcher de participer de manière active à la vie de son église locale. C'est ce gars ou cette fille chrétienne qui désire profondément le mariage et qui malgré tout met de côté la tentation de se marier avec quelqu'un qui ne partage pas leur foi. Ça, c'est vouloir dire « Mais Jésus règne dans toutes les pièces de ma vie. Il est digne d'y régner, sans lui imposer de limites, en reconnaissant qu'il est Seigneur de tout. » Une autre implication de ces versets qui me semble pertinente pour la période dans laquelle on vit, c'est de réaliser qu'il n'est pas possible d'accepter Jésus comme son Sauveur sans le reconnaître comme Seigneur de sa vie. Si Jésus est mon Sauveur, il est aussi mon Seigneur. Les deux vont ensemble, c'est l'implication naturelle de ce qu'on voit ici. Parce que parfois, on entend des témoignages chrétiens qui disent quelque chose comme « Voilà, quand j'avais 8 ans, j'ai accepté Jésus comme Sauveur de ma vie, mais c'est seulement plusieurs années plus tard que je l'ai reconnu comme Seigneur de ma vie. Ça m'a pris du temps. » Et je sais qu'on a des bonnes intentions quand on dit ça. Je sais que c'est probablement l'impression qu'on a de la manière dont les choses se sont passées. Mais bibliquement, on ne peut pas séparer les deux. Si Jésus est mon Seigneur, il est aussi mon Sauveur. Et si Jésus est mon Sauveur, il est aussi mon Seigneur. Et si on n'a pas Jésus comme Seigneur de sa vie, alors c'est la preuve qu'il n'est pas notre Sauveur. Parce que le fait de placer notre foi en Jésus, d'être disciple, va nécessairement impliquer de vouloir le suivre comme un disciple doit le faire, de vivre comme un disciple doit le faire, de vouloir le laisser régner sur notre vie, de changer d'attitude par rapport au péché. Ce n'est pas qu'on va le faire parfaitement, bien sûr, mais en tout cas, cette foi qui sauve ne peut pas nous laisser indifférents. Et si on y pense, c'est vraiment égoïste. C'est prendre Jésus juste pour moi, pour ce qu'il peut m'apporter. Ah voilà, Jésus comme sauveur, tu me donnes ce que je veux recevoir, la vie éternelle, super, merci, tu peux t'en aller. Maintenant, je continue à vivre ma vie comme je le veux. Non, c'est qu'on n'a pas réellement compris de Jésus nous sauve de quoi ? Du péché, du jugement, de la condamnation qu'on mérite. C'est qu'on n'a pas compris que ça va ensemble, qu'il est notre sauveur et qu'il règne ensuite sur notre vie. La foi qu'on place en lui, ce qu'on voit ici, pour être sauvé, c'est une foi qui coûte et qui a des implications. Mais il ne faudrait pas arrêter la prédication ici. Il ne faudrait pas arrêter au verset 24, parce que Jésus continue. Il ne s'arrête pas ici. Et Jésus va montrer que le suivre, même si c'est dur et même si c'est coûteux, ça vaut la peine. En fait, c'est la chose la plus sensée et la plus raisonnable à faire. Jésus, dans la suite des versets, nous invite à avoir une perspective éternelle, à ne pas regarder uniquement à notre vie sur terre, mais à regarder plus loin, à regarder à l'éternité dans laquelle chacun de nous, on va vivre. Et ce qu'il nous montre, c'est que quand on regarde à l'éternité, alors le fait de le suivre, même si c'est pour tout perdre ici-bas, ça vaut largement la peine. Parce qu'il s'agit de tout perdre pour tout gagner. Pour tout gagner. On le voit avec le verset 25, « Perdre sa vie, c'est la gagner pour l'éternité. » Regardez ce que Jésus dit. « Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Sauver sa vie, ici, c'est refuser de prendre le chemin de la croix. C'est choisir la sécurité. C'est refuser de suivre Jésus, refuser de plier le genou devant lui. Continuer à vivre notre petite vie tranquille sur terre avec Jésus comme bouche-trou de notre vie. Mais vivre comme ça, Jésus dit, ça impliquera de perdre sa vie. C'est-à-dire de la perdre pour l'éternité. Parce qu'il s'agira de faire face au jugement dont il est question un peu plus loin au verset 27. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme, c'est une manière de se désigner lui-même, va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Il y aura un jugement. Et de refuser Jésus, c'est de faire face à ce jugement avec nos propres péchés, avec notre casier judiciaire qui est rempli, et donc de se retrouver condamné pour l'éternité en raison de nos fautes, perdu pour toujours. En revanche, Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de lui, à cause de Jésus, la trouvera. Celui qui perdra sa vie ici-bas, maintenant, en suivant Jésus, comme il nous a appelés à le faire, celui-ci, il trouvera sa vie. Celui-ci, il sera sauvé pour l'éternité. C'est la preuve qu'il aurait eu cette foi qui sauve. Pas parce que Jésus nous récompenserait à la fin de notre vie, parce qu'on aurait accepté de faire des choses qui sont vraiment difficiles, et donc il nous donnerait le salut à la fin comme cadeau. Non, mais parce que mourir à sa vie ici-bas, c'est reconnaître qu'on est perdu. C'est reconnaître qu'on mérite ce jugement. Et c'est reconnaître qu'on a besoin de Jésus pour être sauvé. C'est réaliser que notre péché ne nous satisfait pas. Que notre péché nous condamne. Et qu'on a besoin d'une solution. Il est question ici, oui, de se soumettre à Jésus, mais de se soumettre à Jésus comme le Seigneur généreux, qui pardonne, qui sauve, qui donne une vie nouvelle, par pure grâce. Et pour de telles personnes qui ont connu le pardon des péchés que le Seigneur Jésus offre, même en perdant leur vie ici-bas, ceux-là y trouveront leur âme, elle sera sauvée pour toujours. Et c'est un peu la même idée dans le verset 26. C'est une parole assez connue de Jésus et que je trouve assez forte, où il dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Notre âme, ça fait référence à notre vie entière. Pas seulement notre petite vie ici-bas, mais celle qu'on vivra pour l'éternité. Et à quoi ça sert de gagner le monde, même le monde tout entier, si on perd son âme ? Si c'est pour subir le jugement et l'enfer pour l'éternité. La réponse ici, elle est simple. À quoi ça sert? Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de tout gagner ici-bas, même le monde entier, si on passe à côté du plus important, si on perd notre âme. Parce que le monde entier qu'on pourrait gagner, ça ne changera rien à l'état de notre âme. Quelqu'un disait un jour qu'on n'a jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard. Vous savez, les voitures qui portent les cercueils. On n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Parce qu'on n'emporte rien avec nous. Alors la question qu'on devrait se poser ici-bas, dans notre vie sur Terre, c'est pas « Ah mais quel est l'état de ma petite vie sur Terre ?» mais plutôt « Quel est l'état de mon âme ?» Quel est l'état de mon âme ? C'est ça qui compte le plus. Et c'est pour ça qu'on peut aller voir Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos et tous les gens que ce monde admire et leur dire « Désolé les amis, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. » Elon Musk, ta course pour aller sur Mars, pour essayer de repeupler la planète, ça ne sert à rien si tu perds ton âme. Jeff Bezos, tes milliards de dollars de fortune, ça ne sert à rien si tu perds ton âme, si c'est pour être perdu pour l'éternité. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous aussi. Notre course pour vivre la vie parfaite, pour accomplir nos rêves, pour cocher toutes les cases de notre liste de choses à faire avant de mourir, pour réussir aux yeux de la société, ça ne sert à rien si on perd notre âme, si c'est pour être perdu pour toujours. Le plus important, c'est l'état de notre âme. C'est notre vie pour l'éternité. Parce que cette vie ici-bas, elle est comme un tout petit point sur la grande ligne qui est l'éternité. Et c'est pour ça qu'on veut vivre, pas pour ce petit point sur Terre. Et donc si vous êtes ici et que vous découvrez la foi chrétienne, j'espère que vous pouvez prêter attention à ces paroles. Arrêtez de courir après ce qui sert à rien. Réalisez ce dont vous avez le plus besoin, le pardon des péchés. Et ce pardon se trouve en Jésus. Ne courez pas pour obtenir le monde entier parce qu'un jour vous allez réaliser que tout ça, ça ne servait à rien. Et le jour où vous allez le réaliser, ce sera trop tard. Alors plutôt, intéressez-vous à la personne de Jésus, à Jésus qui a prononcé ces paroles. Intéressez-vous à la raison de sa mort sur la croix. Posez des questions à un chrétien dans cette salle pour en savoir plus. Et vous verrez combien ça vaut la peine de tout perdre pour tout gagner. Ça vaut la peine parce que si on a gagné notre âme, on a tout réussi. Si on a reçu le pardon des péchés que le Seigneur Jésus offre, on a tout réussi. On est en sécurité pour toujours. Peu importe comment on est vu aux yeux du monde, peu importe si on ne respecte pas les critères de la société, que ce soit dans notre statut social, familial, financier, peu importe. Parfois, on peut regarder notre vie et se dire « Ah, mais j'ai l'impression d'avoir tout gâché. Ah, mais j'ai envie de refaire ça, et changer ça, et changer ça. » Et on a l'impression d'être vraiment tout en bas et d'avoir tout raté. Mais si on a cru en Jésus, on a réussi le plus important. On a gagné notre âme. On a la vie pour l'éternité. Notre âme est en bonne santé. On n'a pas besoin du monde entier. Peu importe au final. C'est pas ça qui compte. Et c'est cette assurance de savoir que tout perdre, c'est en fait tout gagner. C'est cette assurance qui va nous pousser à tout perdre avec joie. On ne suit pas Jésus sur le chemin de la croix avec contrainte ou à reculons en espérant qu'on aurait pu avoir une autre vie. Non, on le fait avec joie, en sachant qu'on a tout, en sachant que peu importe si on perd le monde entier, on n'en a pas besoin, parce qu'on a ce qui compte le plus. On a le salut de notre âme. Et ça, c'est l'exemple de nombreux chrétiens dans l'histoire. Et j'aimerais terminer avec ce récit que j'avais entendu quand j'étais en cours à l'IBB, d'un des derniers martyrs de la Réforme en Belgique, une dame qui s'appelait Anne Utenhove, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, elle était belge. Elle a vécu au XVIe siècle durant la réforme protestante. Elle a été mise à mort pour sa foi, parce qu'elle croyait en l'Évangile. Elle a été arrêtée pour sa foi et on a essayé à plusieurs reprises de la faire renoncer, de la faire abdiquer. On lui a demandé « Mais est-ce que tu renonces à ta foi chrétienne ?» Elle a dit non. On l'a gardée pendant 2 ans en prison, en espérant que là, elle allait renoncer à sa foi chrétienne et qu'elle allait pouvoir être libérée, qu'elle allait pouvoir partir. Mais elle refusait encore. Et donc, elle a été condamnée à être enterrée vivante, pour être mise à mort. On l'a enterrée progressivement, depuis le bas du corps jusqu'en haut, en espérant qu'à un moment donné, elle allait abdiquer, qu'elle allait renoncer à sa foi, qu'elle allait dire « Ok, c'est bon, j'arrête ». Mais non, elle continuait à dire « Non, je veux suivre Jésus. Je continue à croire à la foi chrétienne. » Puis il n'y avait plus que sa tête qui dépassait. Et le bourreau pensait que là, enfin, elle allait abdiquer. Et on lui a fait une ultime demande. « Mais est-ce que tu renonces à ta foi ?» Et elle a répondu avec les paroles de ce verset qu'on a lu. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Et ça sera ses dernières paroles, et c'est ainsi qu'elle est morte, en 1597. Le dernier martyr de la réforme en Belgique. Pourquoi accepter ça? Pourquoi faire cela? Pourquoi tant de détermination? Mais parce qu'elle savait que son âme était en sécurité. Elle savait qu'elle avait la vraie vie. Elle savait qu'elle n'avait rien à perdre. Probablement, si elle était parmi nous, elle aurait pu chanter avec joie les paroles de ce cantique qu'on va chanter dans un instant pour terminer. « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. » Je réponds « Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. » Elle aurait pu chanter ces paroles avec joie. Elle avait compris que tout perdre, c'était tout gagner. Et avant de prier ensemble, je sais que j'avais dit que c'était l'histoire pour terminer, mais j'aimerais lire une dernière citation, ce coup-ci vraiment pour terminer. Un peu de sagesse du passé d'un pasteur anglais qui s'appelle J.C. Ryle, qui a vécu au 19e siècle et qui, je pense, a des bons mots pour terminer notre prédication sur ce texte. Voici ce qu'il écrit. Si quelqu'un qui lit ces lignes, a calculé le prix et pris sa croix, je l'invite à persévérer et continuer à avancer. J'ose imaginer que tu ressens souvent ton cœur se décourager et tu es cruellement tenté d'abandonner de désespoir. Tes ennemis ont l'air si nombreux, le péché qui t'assaille si fort, tes amis si peu, le chemin si étroit et si raide. Tu as du mal à savoir quoi faire. Mais je te le dis, persévère et continue à avancer. Le temps restant est très court, encore juste quelques années de prière et de vigilance. Encore juste quelques vagues sur la mer de ce monde. Encore quelques morts et changements, quelques hivers et quelques étés. Et tout sera terminé. Nous aurons combattu notre dernière bataille et nous n'aurons plus jamais besoin de combattre. La présence de Christ compensera bien tout ce qu'on a souffert ici-bas. Quand on connaîtra comme on a été connu et qu'on regardera en arrière sur le voyage de la vie, on s'étonnera de notre propre découragement de cœur. On s'étonnera d'avoir fait tellement cas de notre croix et si peu de notre couronne. On s'étonnera qu'en calculant le prix, on ait pu douter de quel côté la balance pesait. Alors prenons courage, on n'est pas loin de la maison. Cela coûte d'être un vrai chrétien et un croyant fidèle, mais ça vaut la peine. Prions ensemble pour terminer. Oui, notre Dieu, on te prie que tu nous aides à calculer le prix, à prendre au sérieux les paroles de Jésus ici pour ceux qui veulent le suivre. Mais aide-nous aussi à porter les regards, pas seulement sur la croix, mais aussi sur la couronne, sur ce qu'il y a à gagner, sur ce que l'on a gagné en toi, le salut de notre âme, la vie pour l'éternité, la présence du Seigneur Jésus dans notre cœur, la beauté de l'Évangile et de se savoir pardonner de nos péchés. Aide-nous, notre Dieu, à avoir les yeux ouverts sur ces réalités, qu'elle prenne racine dans notre cœur, qu'elle impacte notre vie, qu'elle réjouisse nos affections, pour qu'on soit prêt à tout perdre avec joie, pour qu'on soit prêt à te suivre, même quand ça coûte, même quand c'est difficile, jusqu'au bout. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.